nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour et bienvenue dans cette émission Focus. Nous partons au Grand Palais rencontrer le photographe Yann Arthus Bertrand qui présentait du 10 janvier au 12 février 2009 une exposition intitulée 6 milliards d'autres. Ambiance humaine et conviviale, je vous propose de retrouver un petit échantillon du nouvel enjeu fou de l'académicien des Beaux-Arts. Vous écouterez en alternance quelques-uns des 5000 entretiens visuels présenté à l'occasion, une interview de Yann Arthus Bertrand et un témoignage du président de la HALD, Louis Schweitzer, qui intervenait pour les conversations essentielles.
Je suis né. Pourquoi ? C'est quand je suis revenu à la maison. Quand je suis resté loin de ma famille pendant 7 ans, sans connaître personne. Le jour de mon retour, j'ai vu toute ma famille. Ils étaient tous en bonne santé et toujours en vie. Ça a été le plus beau jour de ma vie.
Monsieur Arthus Bertrand, comment vous est venue l'idée d'une telle exposition ?
Je me suis arrêté dans un petit village au Mali il y a très longtemps. J'ai été reçu par des gens, j'avais une panne d'hélicoptère, et puis c'est les gens qui m'ont tout donné. C'est une idée que j'ai eue il y a très longtemps, quand j'avais une trentaine d'années. Et c'est les gens qui m'ont tout donné, c'est-à-dire que je m'étais arrêté dans un tout petit village. Il y avait un homme qui vivait avec ses deux femmes, ses enfants, et qui m'a raconté sa vie, il m'a tout donné. Ils ont trouvé une chèvre, ils ont chanté des chansons, ils m'ont donné un lit avec eux. Et puis, moi, j'ai dessiné ma maison, j'ai montré comment marchait l'hélicoptère, quoi, devant qui ne marchait pas parce qu'il était en panne, il ne m'a pas expliqué. Donc, ce type qui m'a raconté, en me regardant dans les yeux, que sa seule ambition dans sa vie était nourrir sa famille, bien sûr que je le savais, mais la façon dont il me l'avait dit m'avait beaucoup ému. Et je me suis dit, un jour, j'aurais envie de travailler avec les gens, poser tout le monde les mêmes questions sur le sens de la vie, quoi, ce qu'on veut faire, le bonheur, quel est l'événement le plus fort qu'il y a eu dans votre vie, qu'est-ce que vous en avez appris, qu'est-ce qu'on veut changer dans sa vie, qu'est-ce qu'il y a après la mort, est-ce qu'on croit en Dieu, quoi, des questions assez basiques. Et je me suis dit, toutes ces réponses-là, il va forcément avoir des choses qui vont ressortir, des choses très intelligentes. Et puis c'est ce qui se passe, vous voyez, on a fait ça pendant 5 ans, et puis voilà, le résultat. Et ce qui est formidable, c'est que les gens comprennent très bien ce qu'on a voulu faire.
Pendant 5 ans, comment ça se passe? Parce que c'est énorme, vous allez dans tous les pays du monde entier, comment vous vous organisez?
Moi j'en ai fait très peu, j'ai dirigé le projet, j'en ai fait qu'une trentaine d'interviews. Vous voyez des réalisateurs, vous allez en voir, vont demander, ou Sybille, ou Baptiste qui sont là, qui ont dirigé le projet, qui vous diront tout ça. Mais enfin bon, ils travaillaient avec les ONG, et puis il y avait des choses qui étaient préparées, puis il y avait des choses qui étaient complètement du hasard. Voilà, ça peut être le chauffeur de taxi, ça peut être l'interprète, ça peut le gars qui vous offre un café. Et tiens, voilà ce qu'on est en train de faire. On avait une petite brochure, on expliquait ce qu'on voulait faire, et les gens comprenaient relativement bien.
Vous pensez, juste une dernière question, que l'humanité est la réponse à tous nos maux? Ou c'est plutôt l'environnement, le climat? Quelle est finalement la grande problématique de notre siècle? Comment apporter une réponse aux maux de notre siècle?
Je n'apporte pas une réponse à grand-chose. Moi, j'essaye simplement de faire passer de l'émotion. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on n'écoute pas assez l'autre. Quand on a commencé le projet, il y a 6 ans, on était 6 milliards 400 millions. Maintenant, on est 6 milliards 700 millions, vous voyez. On n'a pas fait assez d'interviews. La population a grandi plus vite que nous. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que... Aujourd'hui, tout le monde a une partie de la solution. Et que écouter l'autre, c'est vachement important. Et que l'autre, en fin de compte, vous êtes unique, mais que l'autre est comme vous. Donc il y a un côté complètement étonnant quand vous écoutez tout ça. Par contre, j'ai l'impression que c'est un peu moi qui parle. Voilà. Et c'est ça qui est touchant.
Après l'exposition, qu'est-ce qui se passe ?
Après l'expo, là, celle-là,
on
va tout ranger. Et puis l'exposition va tourner autour du monde. Et va faire dans d'autres villes, j'espère. On va continuer aussi à tourner, c'est un projet qui est en cours. Voilà, c'est un projet
qui a démarré. Le visuel, c'est important pour vous? La vidéo, c'est le support maître?
Non, mais je pense que ça, c'était la meilleure façon de montrer, donner la parole à l'autre. Vous savez, les questions qu'on a posées aux gens, c'est un peu comme chez un psy, c'est des questions qu'on se les pose, mais on ne répond jamais. Quel est l'événement le plus fort qu'il y a eu dans votre vie et qu'est-ce que vous en avez appris? C'est forcément la mort de quelqu'un que vous aimez bien, un petit copain qui est parti. Et ces choses à qui vous parlez jamais de ça, en fin de compte. Et qu'est-ce qu'on en a appris? Voilà, c'est des choses assez intimes. Et toutes les interviews qu'on a faites, c'est rentrer dans l'intimité des gens. Et c'est pour ça que les gens nous ont beaucoup donné aussi, parce que les gens qui interviewaient étaient des gens qui étaient... dans l'empathie, quoi, qui aimait les autres, qui avait envie que les autres vous donnent ce qu'ils avaient de mieux. Et je crois que le succès de l'exposition, c'est que les gens sont très touchants. Quand vous avez vu l'expo, pas ? Oui, voilà. Donc on voit bien le succès de l'expo. Mais c'est vraiment le succès.
Les gens sont à l'intérieur, ils sont dans les yourtes. On ne trouve personne finalement autour. Ils sont tous à l'intérieur.
Ah, oui. Là, il y a les yourtes, je crois que le maximum de gens, c'est 1200 personnes. Il doit y avoir 2000 dans les yourtes. Bon, je suis ravi que ça marche bien, parce qu'on se posait un peu des questions. Est-ce que ça allait accrocher ? Est-ce que les gens allaient comprendre ça ?
Merci beaucoup, monsieur Arthus Bertrand.
Voilà. Écoutez, il n'y a pas de problème.
Le bonheur, c'est voir justice être faite. Si vous regardez un enfant utiliser son imagination et la laisser se libérer. Le bonheur, c'est danser. Le bonheur, c'est une langue. Le bonheur, c'est... Le bonheur peut être dans chaque instant. Le bonheur est si proche. Il est proche. Il est à portée de nous à chaque instant. On peut faire rire un enfant tellement facilement. Et le bonheur jaillit de tout ça. Le bonheur est partout. Mais ce n'est pas une chose brillante. Le bonheur n'est pas quelque chose de cher. Le bonheur est une petite et tranquille collection.
Après Yann Arthus Bertrand, je vous propose de retrouver Louis Schweitzer, président de la HALD, qui intervenait à l'occasion d'une conférence organisée par les Conversations Essentielles.
Je pense qu'il faut prendre les gens, non pas en essayant de savoir ce qu'ils cachent, mais en essayant de s'attacher à ce qu'ils montrent, à ce qu'ils essayent de montrer de ce qu'ils sont. Et donc, cela implique d'être très disponible, d'écouter. Au fond, je pense que l'authenticité, c'est autant d'écouter que d'essayer de pénétrer les choses. C'est de permettre aux gens de s'exprimer. Bon, alors est-ce que ça veut dire qu'une fois que tout cela est fait, on échappe aux contraintes ? Non. La vie est dure, pas plus qu'on ne réussit à vaincre la mort, pas plus qu'on ne réussit à ignorer les réalités financières. Une entreprise ne peut pas échapper au monde qui l'entoure. Mais je pense qu'elle y fera plus face si elle fait confiance aux gens qui sont chez elle. Et cette confiance, je le répète, c'est pas seulement un discours abstrait, c'est permettre à ces gens de s'exprimer. Au fond, on a tous vu, je pense, les temps modernes, le personnage de Charlot. Et le personnage de Charlot, c'est quelqu'un qu'on essaye de transformer en machine. Grâce au ciel, il résiste. Je pense qu'une entreprise qui essaye de transformer ceux qui travaillent en machine est une entreprise qui ne marchera pas. Une entreprise qui essaye de permettre aux gens d'être ce qu'ils veulent être, et je crois qu'il y a une authenticité à être ce qu'on veut être, est une entreprise qui marchera mieux.
Ah, c'est donc possible alors, on va questionner...
Je ne dis pas que c'est possible, je dis c'est ce qu'il faut essayer de faire.
La publicité peut-elle être authentique ? Je veux dire, la publicité cherche à donner une envie, à flatter ce qu'elle montre, c'est clair. Mais pour donner cette envie et flatter ce qu'elle montre, elle doit aller et essayer de comprendre vraiment ce qu'il y a au fond de celui qui la regarde. Et donc elle est moins authentique par ce qu'elle montre que par la compréhension qu'elle doit avoir de celui qui la regarde. Au fond, si je fais une publicité qui ne marche pas, c'est parce que je n'ai pas su parler aux gens qui la regardent. Et donc l'authenticité de la publicité, ce n'est pas ce qu'elle montre, c'est la compréhension qu'elle a de celui qui la regarde et de l'espoir qu'a celui qu'elle regarde.
en toute chose. Il y a un mot que vous avez associé à authentique et qui me choque, c'est immuable. Au fond, une sorte d'idée qui a une sorte d'être permanent au fond de soi et que l'authenticité, c'est de dévoiler cette permanence au fond de soi. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et d'ailleurs, Albert Jacquard a dit, je ne connais pas l'Albert Jacquard au fond de soi immuable. On est quelque chose qu'on construit, qu'on progresse, qu'on montre, qu'on fait vivre. Et l'amour, eh bien, c'est une façon de montrer ce mouvement de soi, pas une sorte d'être immuable. Et la volonté de séduire, ben, c'est une volonté de s'améliorer justement pour séduire. Et moi, je trouve que ça, c'est bien. Oui, moi, je ne suis marié que depuis 36 ans. Donc j'ai moins d'expérience que monsieur, parce qu'en plus je n'ai fait que deux enfants. Mais, disons, moi je crois que, oui, la vie avec quelqu'un implique quelquefois des compromis. Et que ces compromis ne me rendent pas moins authentique, ils me font bouger, ils me font progresser. Et puis voilà, et puis c'est comme ça qu'on grandit. De même que quand on vit en société, chacun d'entre nous, sur ce plateau, a des moments à parler alors qu'il n'avait pas l'idée de le faire, c'est le cas maintenant, ou s'est tu alors qu'il avait envie de parler. Eh bien, c'est ce compromis qui fait qu'on arrive à parler tous ensemble et qu'on reste tous sur ce plateau ensemble. Donc je pense que la vie, elle est faite de compromis, entendons-nous, où on ne met pas en cause les valeurs, la vérité, les choses auxquelles on croit profondément. Si on n'a pas cela de commun avec quelqu'un, on ne construit pas sa vie avec quelqu'un. Mais des compromis qui font que la vie ensemble se gère. On va parler de Facebook. Facebook, ça a deux vertus et ça a une limite. Première vertu, c'est que ça permet d'élargir le cercle. Au fond, la plupart d'entre nous avons un cercle de connaissances qui est très limité. Qui est limité par notre origine, par le fait qu'on habite dans tel endroit, qu'on est allé à telle école. Et le truc merveilleux de Facebook, c'est que par rapport à ce cercle très limité, qui est le cercle de la plupart des gens, quelques dizaines, peut-être quelques centaines de personnes, on élargit le cercle à des milliers de personnes. Le second avantage de Facebook, c'est que quand vous êtes dans Facebook, vous pouvez aller vers l'autre, mais sans prendre de vrais risques. Vous êtes protégé par le fait que la communication, c'est un écran, c'est un fil. Il n'y a pas une relation physique. Vous ne recevez pas une gifle, vous ne recevez pas un coup de poing, vous ne recevez pas une injure. Et puis, si vous en avez assez, vous coupez. Donc, c'est une relation très élargie et très protégée. Et donc, comme c'est très protégé, on peut dire plus de choses qu'on oserait dire face à quelqu'un. La limite, quand même, c'est que c'est très incomplet. Vous ne faites pas l'amour à un écran. Vous n'avez pas une vraie relation avec un écran. Donc, au fond, ça a deux plus, mais c'est totalement imparfait. Et il faut aller un coup au-delà si on veut être vraiment authentique. La limite, c'est qu'il n'y a pas de lien physique. Vous dites violence. La violence qui se transmet par un mail n'a pas exactement la même conséquence que la violence qui résulte d'un face-à-face. Non, moi simplement, je le dis, l'authenticité n'est pas une valeur en soi. La liberté est une valeur en soi. Oui. L'authenticité, c'est un choix que chacun nous fait de s'exprimer de façon plus ouverte ou de façon moins ouverte, de se donner plus à voir, de se donner moins à voir, de se contraindre plus, de se contraindre moins. C'est un choix de chacun.
C'était donc Focus, un reportage au Grand Palais de la rédaction de Canal Académie, avec notamment l'interview de Yann Arthus-Bertrand et le témoignage de Louis Schweitzer, président de la HALD. Thank you.